Bonjour tout le monde, bon début de semaine, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le magazine d'actualité avec Didier Vallet cette semaine, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie. Bonjour Didier.
Bonjour David.
C'est toujours un plaisir de vous avoir en studio et particulièrement à cette période, vous nous rappelez qu'il est temps de ralentir, on est fin novembre et qu'il faut suivre un processus naturel et s'accorder avec la nature et vous êtes l'exemple. Alors je vous vois arriver, vous êtes tellement raccord avec ce qui se passe en ce moment à l'extérieur, vous rentrer dans une phase de, pas de sommeil, mais de ralentissement intense.
Oui, totalement. J'essaie.
Oh, si.
On a toujours notre vie trépidante fait qu'on a toujours tendance à être poussé un petit peu à faire un tas de choses et alors qu'on devrait être dans une période un peu méditative, disons. Et dans un mois, on sera le 24 décembre, ça sera Noël. Et les jours vont rallonger. Donc on va déjà ressentir un petit peu. Parce que ça se ressent quand même, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je travaille dans la nature, mais ces rythmes, moi je les ressens physiquement, je les ressens dans mon corps.
Ah mais oui, mais vous le portez, hein, je vous le dis.
Je ne sais pas. Bon, j'ai toujours tendance à croire que tout le monde ressent ça, mais dès que les jours rallongent... on sent une énergie aussi, cette énergie qui monte, on la sent aussi au travers de son corps, je crois.
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, au mois de janvier, février, il se passe des choses dans la nature. Il y a le début d'une agitation, les bourgeons sont à surveiller du côté du noisetier, par exemple. Il y a une vraie vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Il y a une vraie vie extérieure qu'on a du mal encore à voir. À l'automne, c'est la période des champignons. Qu'est-ce que c'est que le champignon ? En fait, c'est un fruit. C'est un fruit d'une plante qui est sous terre. Le champignon, vraiment, il est sous terre. C'est tout le mycélium. C'est un réseau de mycélium sous terre. Et le champignon, il va sortir. Vraiment, l'automne, c'est le dernier fruit, quelque part, qui sort. Et ensuite, la terre, voilà, en plein hiver, il n'y aura pas de champignons. Donc, ça va rester, toute la vie va rester dans le sol. Et là, on a du mal à la voir. On a du mal à la voir parce qu'on n'est pas des vers de terre. Donc, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du sol. C'est un peu comme, on pourrait dire, notre vie extérieure et notre vie intérieure. L'hiver, c'est la vie intérieure de la terre. Et l'été, le printemps et l'été, ça va être la vie extérieure. Là, il y a un foisonnement qu'on voit. Et c'est comme en nous, hein, on nous voit quand on agit, on voit nos actions extérieures, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. On a cette chose-là, et dès que le mois de janvier et février arrive, les bourgeons des arbres commencent à gonfler. Quand on regarde un peu plus près, quand on se promène dans la forêt, on peut voir les bourgeons qui commencent à gonfler, à se remplir quelque part. Donc toute cette vie-là qui est sous terre, qui commence à pousser, les forces vont déjà vers le haut, mais ce n'est pas complètement extériorisé encore. Donc,
qu'est-ce qu'on fait à cette période dans le jardin ? On plante, on replante les arbustes, c'est une bonne période parce que c'est végétatif et donc...
Là, on vient de passer, c'était le 21 novembre, on vient de passer à Sainte-Catherine. Donc, je crois que ça se fête plus maintenant. Avant, on fêtait les Catherinettes, c'est-à-dire les jeunes femmes qui n'étaient pas encore mariées.
Oui, c'est totalement. Oui, c'est vrai.
Maintenant, il y en aurait beaucoup de Catherinettes, donc on les fête plus. Et la Sainte-Catherine, on dit, ce vieux dicton, la Sainte-Catherine, tout bois reprend racine. Donc, c'est le moment où on peut replanter des arbres, des arbustes, en dehors des périodes de gelée. Bien sûr, il ne faut pas que la gelée soit là, que la terre soit trop froide. Donc ça limite un petit peu aussi les périodes où on peut planter. Mais après, on ne peut pas vraiment repiquer beaucoup d'autres choses. À l'automne, oui, jusque... Mais si, par exemple, au jardin... au mois de novembre, ça peut être intéressant. Alors là, on s'éloigne. Tu m'emmènes souvent dans des contrées autres que celles... Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas. Au mois de novembre, on va semer les fèves, par exemple.
Ah oui, ah.
On
d'accord.
va semer les fèves,
ah, c'est
on
bon
va
ça,
pouvoir,
les fèves.
Fin octobre, début novembre, on peut planter l'ail.
Il y a plusieurs fenêtres pour les fèves. Il y a cette fenêtre, mais on peut les planter plus tard aussi, les fèves.
Alors, on peut les semer aussi. Alors, moi, j'aime bien, soit je les sème là au mois de novembre, pas trop tôt, parce que qu'elles ne soient pas trop hautes quand les gelées arriveront. Hein. Faut qu'elles soient déjà germées, mais pas trop sorties. Et ensuite... quand j'ai pas eu le temps de le faire au mois de novembre, ou si c'est trop mouillé, ou voilà, moi. Je vais le faire en février, début février. Mais il faut les semer très tôt, parce que la fève n'aime pas les chaleurs qu'on a ici. Et très vite, elle va, s'il fait trop chaud, elle va se dessécher, elle va pas être belle. Tandis que... si on les sème de bonne heure, et on peut semer des petits pois aussi, les pois à grains ronds, il y a deux variétés de petits pois, à grains ronds et à grains ridés. Les premiers, genre petits provençals, des choses comme ça, on peut les semer très tôt, et comme ça, on peut avoir des petits pois au mois de mai, en extérieur. Hein, tandis qu'en serre, bien sûr, tout est différent dans les dates. Donc voilà, on peut quand même, en novembre, planter des choses dans le jardin. Et puis après, voilà, planter pendant le jardin, quelquefois on ne met pas des arbres fruitiers, mais on peut mettre des cassis, des groseilles, des framboisiers,
des
arbustes qui ne prennent pas trop de place et qui ne font pas trop d'ombre non plus. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire. Faut pas que le sol soit trop mouillé, faut pas qu'il gèle à pierre fendre, mais il y a toujours des choses à faire. Et nos ombellifères, pour en revenir à nos ombellifères.
On va marquer parce que là, de plus en plus, on s'installe. Alors c'est soit un billet d'humeur, soit un instant, un point potager. On va diffuser une petite respiration musicale.
Là déjà, oui, on va écouter un peu de musique avant.
Depuis quelques semaines maintenant, vous nous parlez de la famille des ombellifères, Didier. On poursuit, on prolonge cette aventure avec vous après un peu de musique. Voilà, on fait ça, on se retrouve dans un instant. Thank you. Des plantes, des hommes et de la biodynamie, rendez-vous bimensuel animé par Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie. On explore la famille des ombellifères, après les labiacées, les rosacées, les composés, c'est les ombellifères. Depuis quelques semaines maintenant, Angélique, c'était la plante sur laquelle vous vous étiez arrêté il y a 15 jours. On reprend sur cette plante ou on explore d'autres territoires?
Je pense qu'on va sûrement en reparler, mais on va en même temps explorer d'autres plantes de cette famille qui est quand même très importante, qui sont des plantes usuelles qu'on utilise beaucoup à des fins culinaires aussi quand même.
Mais aucune plante alors, qu'on retrouve dans la préparation biodynamie de cette famille.
Non.
Hein,
c'est, non, oui. Non. On a des composés.
Oui.
Énormément de composés, on a l'ortie, et voilà, on a surtout des composés,
oui.
Avec l'achillée millefeuille, la matricaire camomille, le pissenlit, et après on a du chêne, de l'ortie et de la valériane qui font partie d'autres familles, mais on n'a pas d'ombellifères, non. Je ne sais pas.
C'est une observation.
Il y a à méditer là-dessus, pourquoi on n'a pas d'ombellifères, mais en tout cas, pour en revenir, tout à l'heure on parlait aussi des semis. Ces ombellifères, on peut les semer à l'automne. On peut les semer au moment où, dans la nature, les graines tombent par terre. Alors, bien sûr, il faut avoir une terre propre, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres plantes qui prennent le dessus. Mais, et pour en revenir à l'angélique, je crois que j'en avais déjà parlé une fois, elle a une durée germinative. Les plantes, surtout quand elles ne sont pas spontanées dans une région, elles ont des durées germinatives très courtes. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir, un siècle après, retrouver une graine et la ressemer et que ça pousse. Et l'angélique, c'est vraiment particulier parce qu'elle a quelques mois de durée germinative. Et le mieux, c'est de la semer, donc elle donne ses graines en fin d'été, et c'est de la semer à ce moment-là, quelque part, au moment où elle donne ses graines. Donc, en hiver, on aura des tout petits pieds qui vont rester tout petits et qui vont se mettre à pousser très vite au printemps après, pour donner des plantes très grandes. Donc, on peut faire la même chose avec le fenouil. Donc, je voulais parler un petit peu du fenouil. Comparativement aux autres ombellifères, le fenouil, c'est le fenouil aromatique, hein, parce qu'on a aussi un fenouil cultivé, le fenouil qu'on mange, donc, où il y a un renflement du bas de la tige, et qui est tendre, c'est bon, hein, c'est en salade, ça a ce goût d'anis, un petit peu, un goût un peu anisé. Et moi, j'aime bien, en tout cas, il faut aimer le goût anisé, mais j'aime pas le pastis, mais j'aime bien le fenouil. Et ce fenouil aromatique, ce fenouil sauvage, contrairement au fenouil légumes, il monte très haut. Il monte peut-être un peu moins haut que l'angélique, mais beaucoup plus haut que la carotte sauvage. Le fenouil, il monte à peu près à 2 mètres de haut pour récolter les graines. Faut vraiment rabaisser les tiges pour réussir à avoir les graines. Donc, il est différent du persil qui monte pas très haut, même quand il est en fleurs et en graines. Le persil, ça va monter à 60 cm, 80 cm, ça dépasse pas un mètre.
Le céleri, c'est ombellifère, le céleri aussi?
Le céleri, ouais. Est ombellifère, ouais. Aussi, oui, oui. Le céleri sauvage, le céleri perpétuel qui s'appelle l'H, A-C-H. A-C-H-E, H des montagnes, ou l'ivèche. Donc celui-là, il est vivace, vous le plantez, vous en avez tout le temps dans le jardin, et vous pouvez l'utiliser dans la soupe. Après, ce céleri aromatique, il n'est pas... En céleri cultivé, vous avez ce qu'on appelle le céleri branche. Donc là, c'est les tiges et les feuilles qu'on utilise, et c'est très bon même en salade, par exemple, moi j'aime beaucoup. Mais c'est tendre. Tandis que le céleri sauvage, c'est dur, ça va pour mettre dans la soupe, pour aromatiser la soupe, mais on ne peut pas le faire en salade. Et puis vous avez le céleri rave, donc, où là, c'est la racine qui a... Il y a eu un travail sur ce céleri pour faire gonfler la racine et qui donne ce céleri rave avec lequel on peut faire le céleri rémoulade, mais qui est très bon en soupe aussi. Et donc, ce fenouil, c'est des... Il est bisannuel ou trisannuel, c'est-à-dire il vit 2 ans ou 3 ans. Il faut le ressemer si c'est pas semé tout seul. Il aime les expositions chaudes et bien drainées, plutôt les sols calcaires. Donc il va pas aimer un endroit où il y a de l'humidité qui reste en hiver. Voilà, faut que il aime la chaleur et on le trouve beaucoup ici. On n'en trouve pas beaucoup en sauvage, mais dès qu'on va dans l'Aude, dans les contreforts de la Montagne Noire, mais côté sud, pas côté nord, pas vers la Cône, mais plutôt vers Castelnaudary. Là, il y a plein de fenouilles sauvages qui poussent dans les champs. Donc, voilà. Alors, c'est surtout les graines qu'on va utiliser en tisane. Donc, comme la carotte... Alors, je disais pour l'angélique et la carotte que c'était des plantes qui étaient très stimulantes, très régénératrices à utiliser dans le cas de fatigue ou des choses comme ça. Et la carotte, elle a ce côté aussi. Alors, elle agit au niveau du foie, mais très souvent, les fatigues physiques qu'on peut avoir sont dues à des problèmes hépatiques, quand même. Personnellement, j'ai vu souvent des gens qui venaient me voir avec des très grosses fatigues, et quand on regarde leurs yeux, on voit que le blanc des yeux est un peu jaune, signe...
De surcharge du foie. Ou d'un foie fainéant.
Voilà. Et la carotte sauvage aussi, au niveau de l'hydrolat, est très régénératrice de la peau, donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour les personnes âgées un petit peu... pour éviter les rides, quelque part, pour régénérer la peau, la rendre un peu plus souple. Donc, le fenouil, on est là-dedans aussi, on est dans la stimulation. Et donc, dans le côté digestif aussi, donc la graine de fenouil, quand on utilise du fenouil dans la cuisine, on aide à la digestion de plats. Bon, le fenouil s'utilise beaucoup comme la nette avec le poisson. Alors le poisson, peut-être des poissons un peu gras, qui seraient un peu plus difficiles à digérer, je ne sais pas, et puis pour le goût peut-être, mais ça va très bien ensemble en tout cas. Et donc, digestif, régénérateur, et il y a une action très très importante, c'est un galactogène. Alors, galactogène, ça veut dire galacté, c'est le lait, la production de lait.
Ah, mais oui, le fenouil, ça, cette réputation.
Voilà.
Oui,
et gène, donc, qui génère de la production de lait. Donc, les mamans qui allaitent, on y revient. Il y a eu un moment où, aux maternités, on disait
la
que.
La tisane de fenouil, ça peut être.
Voilà, la tisane de graines de fenouil, c'est quelque chose qui. J'ai ma fille qui a eu. 4 enfants, elle les a tous allaités jusqu'à 3-4 ans. Et quand elle était un peu fatiguée, qu'elle avait une baisse de montée de lait, elle prenait une ou deux tasses de tisane de graines de fenouil et c'était reparti, même quelquefois trop. Surtout avec les graines de fenouil de son papa. Parce que les autres, elles marchaient moins bien.
C'est mais le pouvoir de la biodynamie.
Celle de son papa, elle marchait très bien. Je ne sais pas si c'est la biodynamie ou si c'est le papa.
On salue Aurélie.
Donc, voilà. Et on peut utiliser aussi... Alors, le fenouil, je crois qu'on peut le mélanger avec l'ache des montagnes, la livèche, donc le céleri sauvage, qui pousse en montagne. pour faire des cataplasmes sur des engorgements, justement, au niveau du sein, qui peuvent donner quand il y a engorgement, il y a échauffement, ça peut donner je ne retrouve plus les mots, mais des éruptions, et donc les catapaces, bon, moi je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas préconisé à ma fille non plus, il semblerait que ça marche bien. Une autre chose. Donc, voilà, toute cette sphère-là, la sphère digestive, c'est les principales indications, et puis dans la cuisine. Voilà. Donc, alors après, on a, à côté de la nette, du fenouil, on a la nette, qui est encore dans les mêmes sphères, à peu près, au niveau digestion, fatigue, stimulant et digestif, mais qui n'a pas du tout les propriétés du fenouil au niveau de la montée de lait. Donc, et la nette, c'est difficile de l'avoir en feuille parce qu'il monte très très vite à graines. Il faudrait, pour en avoir en feuille, il faut en semer tous les 15 jours à peu près, parce qu'au bout d'un mois, paf, il monte en graines. Donc si on récolte les graines, c'est très bien. Mais si on veut du fenouil feuille pour mettre dans les salades, pour mettre dans la cuisine, il faut faire des semis très réguliers. Et la coriandre, je ne sais jamais quel genre... C'est, il y a des gens qui disent la coriandre, il y en a d'autres qui disent le coriandre. Moi, j'ai plutôt tendance à dire le.
Ah, le, d'accord.
Je sais pas. Donc, le coriandre, c'est pareil, il monte très très vite à graines. Donc, c'est assez difficile de l'avoir toute la saison. C'est pas comme le persil. Le persil, il va monter en graines la deuxième année. Donc, la première année, on est tranquille, on a de la feuille. Coriandre et aneth, c'est annuel. C'est pas bisannuel, donc ça fleurit dès la première année. Donc c'est un peu plus délicat à faire, ça supporte pas trop de chaleur, dès qu'il fait chaud, un peu de sécheresse, il monte tout de suite à graines. Donc c'est bon, si on peut récolter des graines, hein, c'est pas grave. Donc voilà un peu cette famille, toutes ces plantes là qu'on utilise. J'ai regardé un peu en transversal. Donc fenouil, aneth, coriandre, persil. Il y aurait le cerfeuil aussi qu'on n'utilise plus beaucoup, le cerfeuil. Et puis, le céleri, toutes ces aromatiques là qui se ressemblent quand même physiquement, botaniquement, ils sont assez proches. Et il y en a d'autres alors qu'on trouve pas beaucoup dans nos régions en spontané, qui sont l'anis.
Ah oui.
Donc l'anis, le carvi. Tout ça, ce sont des plantes qui vont rentrer dans la composition. Le carvi, ça rentre dans le cumin, dans la composition du cumin. Donc voilà, on a tout un panel de plantes là, qui font partie de cette famille et qui sont beaucoup culinaires et au niveau digestif. Voilà, digestif et stimulant, ils ont des propriétés à peu près analogues.
Les ombellifères. C'est un point final ? Non, on y reviendra un jour aux ombellifères, j'imagine.
Je pense que là,
on a bien exploré cette famille.
On les a fait un peu en transversal, mais on passera à un autre sujet au mois de décembre.
Oui, et c'est le rendez-vous qui nous est proposé dans 15 jours. Des plantes, des hommes et de la biodynamie. Rendez-vous rubrique présentée par Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie de la biodynamie, poète des fleurs, des plantes. Didier, merci, c'est toujours un plaisir. Rendez-vous dans 15 jours. Merci.
Au revoir, David.
C'était le mag de ce début de semaine. La suite du programme dans un instant et à bientôt pour une nouvelle édition du magazine d'actualité.
CFM Villefranche, le mag.